Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode Ohana de mercredi. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et Olivier Van Elp. T'as vu, cette fois-ci, j'ai fait un effort, j'ai réussi à prononcer ton nom.
Excellent, salut Hermano.
On a bien parlé de toi hier, tu t'es présenté, tu nous as dit qui tu étais, ce que tu faisais dans le sport. Aujourd'hui, on aimerait parler avec toi de ton obsession pour ce fameux D+, le dénivelé positif. Et vraiment le dénivelé positif, parce que dans l'épisode d'hier, dans ta présentation, tu nous as même dit que tu avais choisi ton premier triathlon parce que ce n'était que du D+. Il n'y avait pas de D-, ça descendait jamais. Donc, s'il te plaît, Olivier, explique-nous d'où te vient cette folie. Pourquoi est-ce qu'on peut aimer autant monter ?
Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote quand même, c'est que Olivier, bon, on s'est rencontrés effectivement, comme on l'a dit hier, sur les bancs de l'université. Et puis, on s'est retrouvés un petit peu par hasard en 2017 quand tu faisais justement une des premières tentatives des 7 majeurs à l'époque. On s'est rendu compte, en fait, je pense qu'on avait fait le col de la Bonnette à 24 heures d'intervalle. Je crois qu'on s'en était rendu compte via Strava ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a repris contact. Et puis, de retour à Bruxelles, on allait rouler ensemble. Et puis, voilà, depuis, c'est vrai qu'on a tendance à sortir assez souvent pour rouler ensemble. Et puis, on a fait aussi une tentative des 7 majeurs ensemble l'année suivante. Et donc, en fait, moi, Olivier, depuis que je le connais, en tout cas en tant que cycliste, je le vois exclusivement sur des formats dénivelés. Et donc, c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant peut-être d'en parler un petit peu, parce que finalement, c'est une caractéristique aussi du cyclisme. Et je pense que c'est ce que je disais aussi en off tout à l'heure. Tu es le cycliste que je connais, en tout cas dans mon entourage, qui est le plus fervent de D+.
Oui, c'est assez exact. Pour moi, il y aurait deux explications à cet amour du D+, cet amour du dénivelé. Premièrement, je pense qu'une balade en fait qui a du dénivelé en fait présente beaucoup plus de paysages diversifiés. Donc aussi, c'est un plaisir pour les yeux de pouvoir passer de vallée en vallée, de passer de bosse en bosse en montagne. C'est encore beaucoup plus grandiose. Ça c'est une des premières explications. C'est le plaisir visuel. Les surprises que tu peux avoir aussi, au fur et à mesure d'une balade, parce qu'on une balade où c'est tout plat, le long du canal, tu sais ce que tu vas faire, quoi. Donc
c'est visuel, mais c'est aussi sensoriel. Potentiellement, la météo va changer, la température sera pas la même. Il y aura pas forcément la même ambiance, il y aura même pas la même pression atmosphérique en fonction de l'altitude à laquelle tu vas,
c'est
au-delà du visuel, je pense qu'il y a beaucoup de sens qui sont impactés.
Ouais, tout à fait. J'en ai fait les frais d'ailleurs l'année dernière, je pense. On était allé essayer de refaire les 7 majeurs, mes amis ont réussi mais moi malheureusement j'ai eu un petit souci. Et en fait, je pense que j'ai eu un problème d'acclimatation. Donc les 7 majeurs c'est dans les Hautes-Alpes, hein. Les cols aussi entre 2003 et 2800 mètres d'altitude pour la Bonnette qui est la plus haute. Et on était allé là en voiture, on est descendu à Briançon et dans la foulée, on a directement tenté de faire les 7 majeurs. Et c'est vrai que dès le deuxième col, dans le col Daniel qui est à 2700 mètres d'altitude, j'ai eu un gros souci physique, transpiration abondante, ça n'allait pas du tout, j'étais hyper haut en rythme cardiaque alors que j'en voyais rien du tout. Et donc ouais, comme tu dis, ça impacte tous les sens. Mais bon là, c'est vrai que c'est dans les Alpes. Ici en Belgique, on a peut-être pas la chance d'avoir des altitudes aussi hautes, mais bon, on a quand même des belles bosses ici en Ardennes. Et donc ouais, il y a de quoi faire quoi. Alors donc ça, ce serait la première explication. Donc le point de vue visuel, sensoriel. Je dirais que la deuxième explication, comme je le disais hier, c'est vrai que j'ai toujours aimé les challenges en fait. Toujours aimer les défis un peu fous. Donc au plus c'est difficile, au plus moi je vais être partant en fait. Donc si tu me proposes une balade de 100 km le long du canal, ça va pas le faire. Par contre, si tu me proposes 100 km avec 2000 D+, des côtes horribles, là je suis partant quoi. Donc je pense que ça c'est une explication et ça vient depuis que j'ai commencé le vélo en fait en 2003, directement j'étais attiré par ce genre de folie. Pour l'anecdote, en 2006, j'ai roulé 24 heures à vélo au Bois de la Cambre, en fait. Il y a un événement qui s'appelle les 24 heures du Bois de la Cambre. C'est un événement, en fait, de mouvement de jeunesse. Et cette année-là, il n'avait pas lieu parce qu'il y avait un autre gros event scout. Et donc, moi, je voulais, en fait, absolument le faire, même s'il n'avait pas lieu officiellement. Et donc, avec Marc, mon pote dont je parlais hier, on est allé rouler 24 heures au Bois de la Cambre, en rond, un circuit de 2,5 km. Je sais plus combien de kilomètres on a fait, hein. C'était complètement débile. On avait une voiture intendance qui nous donnait de la soupe, etc. Et donc déjà à ce moment-là, j'avais un attrait pour les folies en fait. Et donc maintenant, je suis limite à la recherche en fait du challenge le plus fou. Et donc quand j'ai vu par exemple les 7 majeurs, je me suis dit ça c'est un truc vraiment qui me parle. Et je pense qu'en Belgique on a aussi on a de la matière pour faire ce genre de parcours, d'itinéraire un peu fou et pouvoir faire découvrir aux gens des trucs qui sortent en fait de la norme.
Alors, je le rappelle quand même, hein, tu parlais de 2006 quand tu as fait ton 24 heures, donc un défi off. On connaît bien maintenant cette année avec la Covid, défi off, on sait ce que c'est. Hein. Tu avais 16 ans quand même, hein, je tiens à le préciser. Donc, à 16 ans, toi, tu trouves rien d'autre à faire que de te faire 24 heures sur une boucle de 2,5 km.
Ah, j'en ai fait les frais, j'ai eu une tendinite après. par contre, bon. C'était pas 24 heures non-stop, je pense qu'on a roulé peut-être 20 heures, je sais pas, bon, avec les pauses comprises.
Si t'es attiré par les plus gros défis, j'ai entendu récemment dans un podcast Arnaud de Meester, qui est un de vos compatriotes, qui a tenté l'Enduroman. Donc l'Enduroman, c'est un triathlon qui part de Londres et qui rejoint Paris, donc un
Ouais.
peu avec un peu une inversion du sens des disciplines. Il disait que la première fois qu'il a tenté, il a été arrêté à quelques kilomètres pendant sa traversée de la Manche parce qu'il était dans ce qui s'appelle le cimetière des nageurs, donc un endroit où les courants changent beaucoup et du coup il n'arrivait pas à sortir de là. Donc l'organisateur l'a stoppé et quand il allait faire sa deuxième tentative, c'est tombé en plein Covid et donc du coup il s'est fait son propre Enduroman justement du côté de Bruxelles. Donc voilà, si tu cherches un objectif difficile à relever, eh ben, prends contact avec Arnaud de Meester et je pense qu'il pourra te faire essayer ce fameux Enduroman à la belge. Après, sinon, il a lancé aussi le défi 666. Donc c'est pas compliqué, c'est 6 km de natation, 600 de vélo et 60 de course à pied.
Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi.
Bon, c'est un truc de belge, vous êtes complètement tarés, les mecs. Donc là, c'est comme ça que tu as finalement appris à apprécier le dénivelé positif. Ce qui nous intéressait aussi avec Olivier, c'était de savoir, pour quelqu'un qui aime le dénivelé positif, comment est-ce que on s'entraîne pour ça? Comment est-ce qu'on apprend à le gérer? Comment est-ce qu'on le vit au quotidien? Parce que bah, c'est pas donné à tout le monde de faire que de monter. Et puis bah, quand on monte, il faut savoir aussi descendre. Donc est-ce que toi tu descends ou tu fais que de monter? Puis après on vient te chercher en hélico ou on vient te chercher en voiture en haut du col?
Ah, si je pouvais, je ferais que monter, mais malheureusement, il faut redescendre de temps en temps. Non, c'est vrai que c'est assez particulier. Peut-être que moi, j'ai tellement l'habitude. Pour moi, c'est normal, en fait, de faire des balades vallonnées. D'ailleurs, les triathlons que j'ai faits étaient souvent complètement vallonnés, voire jamais plats. Je réfléchis si j'ai fait un plat, je pense pas. Et ça, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que en triathlon, les triathlètes sont pas forcément des grimpeurs, tiens. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. À la fois dans le sens ascendant, mais dans le sens descendant aussi. C'est pas des très bons descendeurs. Sauf peut-être en Espagne où là c'est complètement des tarés. Mais ils descendent comme des malades, ça
On
loue.
fait aucun préjugé sur ce podcast.
Non, jamais, jamais, jamais aucun.
Mais c'est vrai que le triathlète, en fait, ben forcément déjà si tu as un vélo de contre-la-montre, c'est pas fait pour aller te mettre des côtes à 15-20%. Puis il faut pouvoir en profiter aussi. Si t'as un vélo de contre-la-montre, c'est chouette d'aller sur des belles routes plates où tu peux envoyer tes watts et sentir voilà que ça envoie et que tu avances quoi. Je pense que ça c'est peut-être ouais une différence. Aussi moi j'ai un vélo adapté pour la grimpette. Ouais c'est un truc assez light. J'aime bien avoir le matos qui est en lien avec le terrain sur lequel je vais aller. Donc j'ai pas un vélo pour aller faire du plat donc c'est peut-être aussi un truc qui me repousse. Des balades trop plates. Je pense que c'est un tout finalement.
Et ça ressemble à quoi pour toi du coup un vélo de grimpette comme tu dis?
Disons que t'as une position un peu différente. Bah, c'est vrai que le mien est assez agressif.
Alors chères auditrices, chers auditeurs, hein, vous évidemment vous voyez pas, vous avez que l'audio, mais nous on est en visio, donc on voit Olivier qui se retourne, je suppose, vers son vélo.
Exactement.
Tu admires ta machine, donc je crois que tu vas être obligé, tu nous feras une petite photo et puis on diffusera ça à un moment ou à un autre quand on diffusera
Ça va,
les
ça
épisodes.
marche. Ça va. Mais donc, je pense que la caractéristique principale, c'est qu'il soit assez léger finalement. On va pas se mentir, si tu tires un truc de 10 kilos, ça va pas aller. Il faut un vélo Maintenant, c'est vrai qu'avec les disques, ils sont un peu plus lourds, mais avant, on pouvait avoir des vélos en dessous de 7 kilos assez facilement. Je mets des guillemets parce qu'il y a quand même un budget à mettre là-dedans. Maintenant, avec les disques, le poids a un peu augmenté, mais c'est assez marginal finalement. Un vélo de contre-la-montre va être un peu plus lourd généralement, parce que sur le plat, finalement, la résistance gravité n'est pas d'importance, donc il n'y a pas de problème avec ça.
Donc c'est un vélo plutôt léger. Malgré tout, comme tu fais de l'endurance, de l'ultracyclisme, tu vas mettre les sacoches, donc le poids que tu gagnes, tu le compenses aussi dans le matériel que tu emmènes avec toi.
Alors c'est vrai que sur l'ultracyclisme, au mois de juillet, je vais faire le Biking Man X, qui est un ultra de... C'est 1000 km, le parcours est secret, tenu secret jusqu'à la veille du départ. Mais c'est dans les Alpes, et ils ont annoncé la couleur, ça va faire que monter-descendre. Donc je pense qu'il faut trouver un compromis entre la légèreté, parce que voilà, si t'enchaînes l'école, il faut pas traîner un truc super lourd, mais il faut pouvoir avoir tout son matériel, avoir un certain confort aussi. Donc je vais peut-être pas forcément prendre non plus mes chaussures les plus rigides, les plus légères. Je vais peut-être opter pour des chaussures plus confortables, parce que si je dois les tenir 4-5 jours, voilà, il faut que, faut pas que ça génère des douleurs trop importantes. Donc ouais, c'est un compromis entre poids et entre confort. Donc ça, c'est le juste milieu. Chacun va le trouver à sa convenance. Je parle en termes du classement. Les premiers dans le classement sur un Biking Man, ils ont pas grand-chose avec eux. Hein. Ils sont là, ils roulent, ils se posent pas de questions. Ils ont 3 barres dans la poche arrière et c'est tout, quoi. Donc par contre, les gens qui prennent plus de temps, ben tu vois qu'ils ont des sacoches avec parfois même un sac de couchage, un petit truc, un sac à viande, des petites vestes. Donc ouais, ça c'est un juste milieu que chacun doit trouver, je pense.
Puis après, c'est vrai que là on parle ici beaucoup d'ultra principalement sur route, mais il faut savoir qu'il y a aussi des ultras tout terrain. Et donc, je pense notamment à la Atlas Mountain Race, par exemple, qui a lieu au Maroc. Je pense qu'il y a aussi une sœur jumelle qui a lieu au Kyrgyzstan, pour ne citer que celle-ci. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se retrouve plus souvent véritablement au milieu de nulle part, parce que voilà, on est vraiment dans la nature complète, et on peut ne pas voir de magasin ou quoi pendant des centaines de kilomètres ou ne fût-ce qu'une habitation. Donc dans ces cas-là, effectivement, l'équipement est d'autant plus important puisque on doit avoir tout son ravitaillement avec.
Ouais, toute sa maison avec soi, hein, parfois, ouais.
Olivier, tu dis ça en référence au témoignage que tu as fait pour le livre Oana, où tu parlais de ta déconvenue dans votre tentative des 7 majeurs.
Alors moi, je là à l'instant, c'est vrai que j'avais plutôt en tête la partie hydratation et nutrition. Maintenant, niveau mécanique aussi, c'est clair qu'il faut être bien équipé. Pour la petite anecdote, c'est vrai que bah, en fait le jour où on avait fait cette tentative des 7 majeurs avec Olivier, j'ai été en fait bloqué assez rapidement puisque après le deuxième col, le col Aniel, finalement, faut croire que qui nous porte pas chance, mon pneu a tout simplement explosé en descendant le col et donc j'ai dû être obligé de descendre avec un pneu explosé. Donc il tenait plus ou moins la route pendant encore, je pense, une petite trentaine de kilomètres pour arriver jusque dans la vallée en Italie et trouver un magasin de vélo qui puisse me le réparer. Donc voilà, effectivement, les soucis mécaniques, ça fait aussi partie du jeu et je pense qu'on a intérêt à être assez bien équipé. Ceci dit, même si c'était à refaire, je suis pas sûr de prendre un second pneu de rechange.
Non, la moralité de l'histoire, c'est peut-être que là-dessus, il vaut mieux prendre des boyaux plutôt que pneus et chambre à air, non ?
Ça se discute.
Et en tout cas, il faut du matériel pour pouvoir réparer en cas de souci, en cas de pépin. Ouais. Peu importe si c'est tubeless ou ouais, il faut avoir de quoi se retourner.
Sur la partie entraînement, parce que là encore, nos auditeurs ne te voient pas, mais t'as pas l'air d'être plutôt baraque, pourtant, pour quelqu'un qui aime le dénivelé. Enfin, quand je dis baraque, je veux dire, t'as pas l'air d'être un haltérophile. Pourtant, quand on aime monter, en général, on a des bonnes grosses cuisses. Comment est-ce que toi, tu vois ton entraînement? Est-ce que tu t'entraînes spécifiquement sur, justement, des parties très techniques, à savoir de la grimpette en lasso, et puis après, tu t'entraînes à les redescendre, ou finalement, tu sors avec le vélo et puis tu prends ce qu'il y a?
Bon, je pense que la base, déjà, c'est du volume, donc rouler, 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 des kilomètres et des kilomètres. En fait, il y a dénivelé et dénivelé. Je dirais que il y a un premier dénivelé qu'on connaît ici en Belgique, par exemple, où tu as des côtes entre 3 minutes et 25 minutes pour les plus longues en Ardennes. Si par exemple tu fais un 150 km, un 200 km en Ardennes, tu vas faire que monter, descendre, mais ça va être des moments finalement assez courts. Ton effort de, je sais pas, en moyenne 15 minutes, et donc tu vas redescendre, tu vas refaire 15 minutes, tu vas redescendre, etc. Donc je pense que pour ce type d'effort, personnellement, moi je m'entraîne de cette façon-là. Donc ici à Braine-l'Alleud, dans la périph bruxelloise, j'ai la chance d'avoir ce genre de petites côtes. Qui vont durer pour le max 8-10 minutes. Mais je dirais qu'il y a un autre dénivelé, ça c'est peut-être plus celui qu'on peut connaître en montagne, des longs cols, où là, les cols, ça sera plus 1h30, voire parfois 2h, si c'est vraiment un long col, où là, l'effort va être constant pendant 2h, on pédale, on met 200 watts, 230 watts, ça dépend un peu ce qu'on recherche. Ouais, c'est différent en fait. Je pense que si je m'entraîne ici pour faire du dénivelé sur un parcours casse-pattes, ça va pas forcément être avantageux pour aller rouler en montagne des heures et des heures. Je pense qu'une et ça c'est peut-être une erreur que j'ai faite par le passé, que de faire finalement des sorties par exemple de 200 km assez plates où tu pédales de manière constante, fait que en fait ça va peut-être plus se rapprocher d'un effort type que tu pourrais avoir dans un col. C'est vraiment deux types de dénivelés qu'il faut apprendre à apprivoiser et s'entraîner en fonction. Ici, mes objectifs, en tout cas pour la première partie de l'année, sont des parcours assez casse-pattes, comme la conquête des Ardennes par exemple, et donc je profite du terrain que j'ai ici. Mon objectif qui est le Banking Man X en juillet, là je vais peut-être aller chercher un autre type d'entraînement avec des rythmes plus constants, mais voilà, de plus long quoi en tout cas.
Ouais, puis je pense que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que sur ce deuxième type de dénivelé où tu as des cols très très longs, tu en as parlé en début d'épisode, c'est aussi l'acclimatation à l'altitude, parce que mine de rien, quand tu fais un col qui dure 10, 15, 20 minutes, tu prends 300 mètres quoi. Quand tu fais une ascension qui dure 2 heures, tu prends 1000 mètres, et prendre 1000 mètres en 2 heures, pour l'organisme, quand on n'est pas habitué, c'est quand même pas anodin. Donc je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi des exercices sur lesquels il faut s'entraîner.
Ouais, c'est clair. Bon, après, faut avoir la chance d'habiter les régions qui regorgent de ce genre d'environnement. Ça, si j'ai un conseil à donner, c'est si par exemple on a une course, un événement en montagne dans un environnement comme ça, peut-être y aller quelques jours avant pour s'acclimater en tout cas.
Ouais, parce que c'est plus facile de passer quelques jours avant et de s'acclimater à l'altitude et de redescendre pour le départ de la course pour remonter. Là, l'organisme sera acclimaté plutôt que de rester en plaine malgré tout l'entraînement qu'on a pu faire et puis de s'acclimater d'une heure à l'autre avec une augmentation de 1000 ou 2000 mètres.
Ah oui, on a beau être entraîné du mieux qu'on peut, c'est vrai que l'acclimatation, c'est toujours une surprise, quoi. Je pense que ça, c'est du cas par cas et par précaution, y aller quelques jours avant, c'est une bonne chose.
Super. Écoutez, messieurs, encore merci pour toutes ces précisions pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour demain, au programme la conquête des Ardennes. Ça fait 2 jours qu'on aborde très rapidement le sujet. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour rentrer plus dans les détails de cette organisation qui va bientôt voir le jour.
Super, à demain.
Salut les gars.
Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.
Le point de vue visuel, sensuel, le deuxième, sensitif, pardon, le deuxième, ce serait... Peut-être.
Ça peut être sensuel aussi, hein. Peut-être que tu recherches justement certaines formes, mais ceci est un autre débat. Éventuellement, je le couperai au montage.
Oui, non, sensitif.
Sensoriel.
Sensoriel. Ouais, et puis là, on coupera. Bon, je vais embrayer sur le deuxième point.
Alors, je dois te l'avouer quand même, de temps en temps, je mets des morceaux de l'émission en bonus, c'est-à-dire après le jingle de fin, juste pour ceux qui sont assidus et qui écoutent jusqu'au bout. Donc ça risque de se retrouver en bonus.
Pas de souci. Alors, je dirais que la deuxième explication,